Merci, merci.
Merci beaucoup aux organisateurs pour m'avoir invité. D'autant plus que la notion d'acceptabilité, je dirais que c'est quelque chose que nous balayons en général d'un revers de main quand on est sur des terrains controversés, puisque on refuse carrément la notion, puisqu'on est souvent qualifié en tant que, quand on intervient comme sociologue, d'acceptologue. Mais que par contre, c'est une notion qui nous travaille et qui nous met très mal à l'aise parce qu'on se rend compte qu'on est, on est souvent instrumentalisé dans cette dimension, enfin, on est systématiquement instrumentalisé d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou non. Juste pour dire d'où je parle, c'est quand même important de le préciser. Donc, je dirige une unité à l'Université de Lausanne qui s'appelle Interface Sciences-Société, qui a donc pour mission de démocratiser les savoirs scientifiques auprès de tous les groupes sociaux. C'est une activité qui nous amène à faire pas mal de travaux ethnographiques et sociologiques sur des objets scientifiques très controversés comme les OGM, les nanotechnologies, actuellement beaucoup la médecine personnalisée, la médecine génomique humaine. De pratiquer aussi des activités de technology assessment, d'évaluation technologique participative, comme par exemple le World Wide News on Global Warming qui a précédé la conférence de Copenhague en 2009 où nous avons organisé le volet suisse. Et puis aussi des activités de recherche-action, par exemple sur les processus de normalisation impliquant la définition des nanostructures qui sont vendues sur le marché. Donc je précise ça pour dire qu'on travaille à la fois, je travaille à la fois sur des aspects théoriques de ces questions de démocratisation des savoirs, de participation et d'acceptabilité, et aussi sur la mise en œuvre parfois de processus participatifs et délibératifs. Donc, pour revenir à ce malaise que représente la notion d'acceptabilité sociale, c'est donc bien sûr une notion trouble, ambivalente, qui met en général la plupart des acteurs mal à l'aise, que ce soit les sciences humaines et sociales d'un côté ou les milieux innovateurs de l'autre, qui cherchent à produire de l'acceptabilité. Cette notion est très souvent assimilée par les sciences humaines et sociales, ce qui provoque aussi leur refus un peu catégorique d'entrer en matière, à une démarche de réduction des conflits, de gouvernement de la critique, de séparation dichotomique entre sciences et techniques, entre techniques et sociales, pardon, de traitement ex post d'un social résiduel, et bien sûr d'une volonté de réduction des résistances au changement technique. Bien sûr que la notion d'acceptabilité, c'est pour ça que je parlerai aussi pas mal du dispositif, est indissociable en montée en puissance du thème de la participation et de la concertation, donc de ce qui permet en fait de négocier cette acceptabilité. Le dernier avatar de la participation est apparu dans le domaine technologique dans le milieu des années 2000 avec la notion de upstream public engagement, engagement précoce du débat public, qui est encore extrêmement inscrit dans un modèle linéaire de l'innovation qui prétend que si l'on intervient avec un débat public ou une évaluation technologique participative en amont d'une trajectoire technologique, on a une chance d'influer sur l'évolution de cette trajectoire, et ceci s'est construit bien sûr sous l'étendard du large refus des OGM au niveau international. Donc avec l'arrivée des nanos, avec le refus des OGM, on s'est dit on ne va pas répéter la même erreur qu'on a fait avec les OGM, donc on va introduire, ça s'est fait dans le monde anglo-saxon, ça s'est fait en Angleterre, la notion d'upstream engagement qui a été, je crois que c'est important de le souligner, mise en œuvre de manière quasiment totalement acritique par les sciences humaines et sociales qui ont sauté sur cette notion en se disant là, on va pouvoir peut-être avoir un impact sur les trajectoires d'innovation avec cette conception linéaire de l'innovation qui demeurait donc tout à fait intacte. Alors, les sciences et les techniques, bien sûr, contribuent très fortement au façonnement de l'identité des individus et des collectifs, mais les techniques sont développées dans un contexte qui est essentiellement conditionné par le marché et qui échappe donc largement aux mécanismes démocratiques. Que l'inclusion des groupes concernés, de citoyens ordinaires, de riverains, de parties prenantes, s'opère via des processus participatifs et de concertation, qui sont organisés par les pouvoirs publics ou au contraire dans le cadre de controverses, voire de conflits parfois violents. Tout ceci est lié bien sûr à une propriété centrale des techniques, c'est-à-dire leur capacité à déborder systématiquement de l'espace d'usage et de la définition ontologique qui leur a été conférée au sortir des laboratoires par les concepteurs et les ingénieurs. Et je renvoie ici à la notion de débordement qui a été développée par Michel Calon, qui me paraît essentielle. l'idée que dans la vision des ingénieurs, très souvent, les techniques sont là pour simplifier le monde, pour régler un certain nombre de problèmes, pour trier, pour classer, pour résoudre des problèmes, alors que si on a une vision qui est davantage socio-anthropologique, on s'aperçoit qu'au contraire, les techniques sont vecteurs de clivage, elles sont vecteurs de clivage moraux, elles sont vectrices d'incertitude. Et donc, il y a une prise en charge qui est totalement différente de ces incertitudes qui sont générées en permanence par tous les objets hybrides qui sortent des laboratoires de recherche, qui, d'un côté, du côté des ingénieurs, sont vues comme des incertitudes qu'on va chercher à réduire une fois pour toutes avec des dispositifs rationnels, et de l'autre, qui sont vues par les acteurs sociaux sur le terrain en controverse et par les SHS comme des entités, donc des incertitudes qu'il ne s'agit pas de réduire, mais qu'il s'agit plutôt d'inventorier et de faire proliférer. Alors, ces débordements peuvent être de deux types, c'est important de les distinguer, parce qu'ils menacent l'identité des acteurs, donc je renvoie essentiellement ici à la question des risques et des catastrophes, les riverains d'installations industrielles, les consommateurs de substances toxiques, les hémophiles qui ont été exposés à des échantillons contaminés par le virus du sida, les riverains de centrales nucléaires comme celle de Fukushima Daiichi, etc. Et puis, ces débordements affectent aussi les usagers ou les groupes parce qu'ils décident volontairement de s'investir dans le développement de ces techniques. Alors, on a beaucoup d'exemples, en particulier dans le domaine biomédical, sur lequel je travaille passablement, dans le domaine du sida, des myopathies, des usagers des technologies de l'information et de la communication, dans le domaine du hacking, ce qui relève très largement du hacking, donc pas uniquement le hacking informatique, mais aussi le biohacking, le développement des Fab Labs, etc. Donc les débordements ont une double composante qui est à la fois un impact négatif, qui est le dégât du progrès, et un impact positif sur la co-construction des identités sociales de la part de groupes qui s'emparent en fait de ces nouvelles ontologies. Il y a aussi une très jolie expression de Marilyn Stratern, anthropologue anglaise, qui parle de prolifération du social. Donc les techniques sont un facteur majeur de prolifération du social, ce qui s'oppose à une sociologie plus classique, avant les science studies, type par exemple celle de Pierre Bourdieu, où la liste des acteurs sociaux est fermée a priori, si vous voulez. Avec les techniques, on a bien sûr affaire à des ontologies qui sont ouvertes, qui communiquent, et une liste d'acteurs qui se modifie en permanence. Alors si maintenant on essaye de faire un peu l'étiologie, la genèse de ce désaccord à propos des techniques, ou ce que certains ont appelé le controversisme, ou ce qu'on pourrait appeler aussi la crise du paradigme modernisateur de nos sociétés, le paradigme du progrès, pour être plus simple. Je citerai ici Barbier et Nadal dans l'excellent dossier sur l'acceptabilité sociale de Vertigo qui était publié en 2015, qui disent que, je cite, « l'émergence de l'acceptabilité sous la forme de problèmes convoquant des situations de régulation publique est une dimension structurelle du changement social. » Donc ça c'est vraiment important, c'est de considérer que ce problème d'acceptabilité est une dimension structurelle du changement social. « Elle tient à l'autonomie que nos sociétés reconnaissent aux univers du marché et de la politique professionnelle, les postant ainsi comme des intérêts premiers par rapport à d'autres enjeux. La légitimité d'une régulation publique de l'acceptabilité est à bien des égards l'envers de cette légitimité à transformer le monde et à proposer des solutions qui est conférée aux acteurs économiques, mais aussi de celle qui est conférée à d'autres forces sociales pour éventuellement constituer ces solutions en problème. » Donc je crois que c'est un élément extrêmement central de considérer que cette notion d'acceptabilité de plus en plus problématique est liée à l'autonomie donnée à une sphère de pratique, essentiellement la sphère de l'innovation et la sphère marchande. On rejoint aussi ici les thèses de Dominique Pestre sur sa critique du paradigme de la participation. On peut aussi dire avec Fournier et Fortin que cette notion renvoie aux mécanismes de base qui sont à l'œuvre dans les ruptures de l'entretien régulier des réalités sociales, je cite, en ce qu'elle est surtout mobilisée lorsque les rapports routiniers aux symboles, normes et croyances partagées fondant l'adhésion commune à l'ordre établi sont remis en cause, consentement actif ou résignation passive. Dans une certaine mesure, c'est parce que la légitimité du développement n'est plus naturelle, développement scientifique et technique, qu'elle implique des luttes autour de sa signification et que la notion d'acceptabilité sociale peut présenter un intérêt heuristique. Donc plutôt que de réfuter cette notion comme étant un cache-sexe de l'innovation, on peut aussi la considérer comme ayant des vertus heuristiques pour comprendre ce qu'il est en train de se passer aujourd'hui par rapport au paradigme modernisateur qui a dominé notre développement jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais juste évoquer aussi maintenant, pour faire un peu le cadre théorique de cette réflexion, toujours en termes étiologiques, l'étiologie du tournant participatif tel qu'il est vu par Loïc Blondiaux, notamment, qui inventorie 6 tendances majeures qui rendent compte de cette importance accordée aujourd'hui à la concertation, à la participation. La première renvoie à des sociétés qui seraient de plus en plus complexes. Donc ça, c'est un espèce d'inventaire de la littérature, si vous voulez, de ce qu'on trouve comme explication à cette montée en puissance de la participation. Donc des sociétés de plus en plus complexes qui s'organisent en sous-systèmes sociaux dont la mise en cohérence est rendue nécessaire grâce à la participation. Donc, en fait, c'est une explication, disons, à la Niklas Luhmann, complexité des sociétés, spécialisation des systèmes et nécessité d'espace de concertation pour aligner les acteurs autour d'un certain nombre d'objectifs choisi. Deuxièmement, des sociétés de plus en plus divisées. Et là, on a affaire à une prolifération de l'hétérogénéité des postures morales et politiques qui demandent de nouvelles technologies de recherche du consensus par la délibération. Et là, on se trouve dans un paradigme un peu à la John Rawls. Troisièmement, des sociétés de plus en plus réflexives. Donc là, ça renvoie bien sûr à la notion de société du risque, développée par Ulrich Beck, mais aussi traitée par Anthony Giddens, qui renvoie à l'importance de la montée en puissance des savoirs profanes, de la démocratie technique à la Calon, la démocratie dialogique, versus la démocratie représentative ou délégative. Cette dimension réflexive de nos sociétés qui émergerait dans la deuxième partie du XXe siècle a bien sûr été critiquée sur le plan historique par des gens comme Fressos et Pestre, qui ont bien montré que dès l'origine de la révolution industrielle et de ses nuisances, en particulier déjà à la fin du XVIIIe, mais surtout au tout début du XIXe siècle, on a des mouvements, non pas de contestation, mais de mise en évidence des dégâts du progrès, des réflexions sur la déforestation, le changement climatique, etc. Donc cette prétendue réflexivité qui émergerait et que nous aimons bien en tant que sciences sociales portée au pinacle dans la deuxième partie du XXe siècle est largement surévaluée. Quatrièmement, des sociétés de plus en plus indociles, donc qui renvoient à la mobilisation croissante de groupes concernés dans le domaine en particulier de la santé et de l'environnement, à la montée en puissance d'un syndrome NIMBY, Not in My Backyard, et d'une consultation ou de la concertation pour prévenir et désamorcer les conflits. Cinquièmement, des sociétés de plus en plus défiantes, qui renvoient ici alors à un repli individualiste, une rupture des sociabilités, défiance envers les institutions démocratiques et politiques, et on va utiliser ici la participation pour revitaliser en fait la chose politique. Et finalement, et sixièmement, des sociétés devenues ingouvernables, qui renvoient à la crise de la gouvernabilité du modèle décisionnel vertical qui est traité de manière institutionnelle à la fin des années 80, au début des années 90, notamment dans le cadre du livre blanc sur la gouvernance européenne qui est publié en 2001, qui contient, je vous le rappelle, un principe de participation des citoyens à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques qui va s'appliquer aux instruments de consultation mis en place dans le secteur des politiques scientifiques et technologiques également. Alors si on cherche maintenant à définir l'acceptabilité sociale, il est intéressant d'essayer, comme l'ont fait d'autres chercheurs, de différencier acceptation comme un choix dichotomique et acceptabilité comme un processus dynamique qui permet d'ancrer la notion d'acceptabilité dans un triptyque qui associe, là j'en vois aussi à Fournier-Fortin, un triptyque qui associe à la fois la construction dynamique d'un accord entre les acteurs, un travail politique réalisé par des collectifs, et troisièmement, une inscription territoriale des attachements des acteurs. Eux renvoient en particulier à des études qui ont été faites autour de l'implantation des parcs éoliens, où la dimension bien sûr territoriale est tout à fait essentielle. L'acceptabilité sociale ainsi comprise est, je cite, premièrement plus dense que la seule acceptation parce qu'elle renvoie à une construction sociale du projet technique qui peut emprunter divers chemins, dont l'acceptation et le refus ne seraient que deux pôles extrêmes. Deuxièmement, elle est plus profonde que la seule analyse des normes, des valeurs, des attitudes ou des perceptions, parce qu'elle comprend des arrangements institutionnels qui les soutiennent. Et troisièmement, elle est plus globale que les analyses spatiales, qui risquent de négliger les différentes échelles de temps qui structurent les territoires. Le temps long des macrostructures, le moyen terme de la mésogouvernance, et le temps court des dynamiques microsociales. Alors en fait, Fournier et Fortin ont un modèle intéressant où ils distinguent trois niveaux d'analyse qui devraient être pris simultanément pour comprendre ce qui se passe au niveau de la négociation de cette acceptabilité entre les acteurs. C'est un niveau macroéconomique où se construisent les grands compromis sociaux qui nourrissent les modèles de développement, en particulier les modèles économiques, un niveau mésopolitique qui renvoie au processus de délibération et de formation des décisions légitimes et des règles du jeu, et un niveau microsocial qui concerne en fait l'ancrage territorial d'implantation notamment des systèmes techniques. Il me semble aussi utile pour définir cette notion, pour cerner plutôt cette notion d'acceptabilité, de reprendre quelque chose à Barbier et Nadag et à une inspiration qui vient aussi des travaux de Francis Château-Renaud, en définissant non pas l'acceptabilité mais l'épreuve d'acceptabilité, c'est-à-dire une dynamique de régulation publique qui a pour objet la reprise de l'enquête, donc une enquête collective au sens de Dewey, sur les propriétés et conditions de compatibilité d'un dispositif socio-technique et du ou des groupes d'acteurs pour lesquels il fait problème, sous le contrôle d'une ou de plusieurs figures arbitrales imposées ou forgées par la dynamique de l'épreuve, autorité décisionnelle, juge, public concerné, opinion, jury citoyen, etc. Et on peut définir quatre dimensions qui sont tout à fait centrales dans cette épreuve d'acceptabilité, épreuve insistant bien sûr sur la notion de conflit ou de controverse. Premièrement, la valeur de l'horizon de sens dans laquelle s'inscrit le dispositif, c'est-à-dire la compatibilité de ce dispositif technique avec les visions du monde en présence, les visions du monde, les imaginaires socio-techniques qu'implique le dispositif en question. Deuxièmement, la robustesse du dispositif, c'est-à-dire sa capacité à résister à la comparaison avec d'autres alternatives techniques. C'est évidemment ce qui manque souvent dans les processus de délibération, de participation. C'est la comparaison avec des alternatives technologiques disponibles ou non disponibles. Et ça renvoie ici à un critère qui me paraît extrêmement important, c'est le critère de diversité des options que le marché a tendance à supprimer par la création de monopoles, puisqu'il est difficile d'imaginer une démocratie écologique ou une transition écologique sans faire proliférer les options disponibles pour le choix. Troisièmement, la solidité des garanties concernant les débordements potentiels, c'est-à-dire les dégâts, les risques, voire les catastrophes que ces systèmes techniques peuvent engendrer sur le territoire dans lequel ils sont implantés ou au-delà de ce territoire. Et finalement, quatrième dimension de cette épreuve d'acceptabilité, la justesse de la situation présente ou à venir, autrement dit, son caractère défendable en généralité du point de vue des torts éventuels qu'on subit ou que pourraient subir certains acteurs. Donc ça renvoie à la notion de justice, d'équité, d'imputabilité ou ce qu'on appelle en anglais l'accountability. Si maintenant on se penche un tout petit peu sur la genèse historique des outils de démocratisation des choix scientifiques et techniques, je le ferai très rapidement. Il faut se souvenir que l'évaluation technologique participative, ou le Technology Assessment Participatif, trouve son origine en partie aux États-Unis avec la création en 1972 de l'Office for Technology Assessment, qui est une institution qui a eu son heure de gloire, qui a été dissoute en 1995 et qui visait à permettre aux parlementaires américains de s'affranchir de la pression des lobbies. Donc, ils se sont dotés en fait d'une instance qui fournissait une expertise sur tous les domaines techniques, scientifiques et médicaux, avec une dimension d'exhaustivité, de neutralité et d'interdisciplinarité. Interdisciplinarité qui était encore assez faible à l'époque, puisque due aux avantages conférés aux physiciens à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, suite au projet Manhattan, à la réussite du projet Manhattan, on avait essentiellement des physiciens qui se prononçaient sur ces enjeux techniques. Donc les Européens ont importé ce modèle d'évaluation technologique en lui rajoutant la dimension participative qui était absente dans le modèle états-unien, en créant dans les années 80 au Danemark ce qu'on appelle la conférence de consensus, qui s'appelle conférence de citoyens en France, qui s'appelle Public Forum en Suisse, etc. Maintenant, il faut se rendre compte que la question de la participation est devenue quelque chose d'extrêmement technique, puisque si on regarde un peu les guides de cuisine, les textbooks de participation, on a à disposition actuellement plus d'une centaine de méthodes. Donc il faut mettre en proportion la complexité de cet arsenal méthodologique avec le caractère indigent des discussions qui ont lieu très souvent sur la démocratie participative, ou la démocratie technique participative, j'allais dire, excusez-moi, mais en particulier dans le contexte français. En Suisse, par exemple, dans mon pays, la question de la participation ne fait même pas l'objet du débat parce qu'elle est tellement ancrée dans les institutions que Vendre ou faire la promotion de la participation ou de la concertation n'intéresse strictement personne. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin également en Suisse, puisqu'on a aussi un office de technologie assessment en Suisse qui s'appelle Terra Suisse, qui fait d'ailleurs un très bon boulot. Donc, depuis lors, des milliers de méthodes participatives, donc depuis la fin des années 80, ont été mises en place, qui vont depuis la mise en œuvre des tests génétiques, au paiement urbain, en passant par l'adaptation au changement climatique, à l'implantation des parcs éoliens ou des sites de stockage profond de déchets nucléaires à haute activité. Alors, lorsqu'on cherche à identifier quels sont les avantages de la participation citoyenne ou de la participation des parties prenantes, on a en général trois catégories d'arguments qui sont invoqués. Le premier argument porte sur la qualité des connaissances, c'est donc un argument de type épistémique, qui considère que le savoir des citoyens et des usagers est indispensable pour durcir et donner davantage de robustesse sociale aux connaissances et aux technologies qui sont produites, et cela permet en même temps de réduire ce que les économistes appellent la rationalité limitée des choix qui sont effectués. Donc on augmente la quantité d'informations, bien entendu, dans un processus d'innovation quand on implique les usagers dans la conception des systèmes techniques. Le second argument est de type normatif et il renvoie au déficit démocratique qui caractérise le développement technoscientifique. En particulier, cela renvoie à la notion de débordement que j'évoquais tout à l'heure. Et ce raisonnement est de même nature que celui qui est évoqué par les politistes sous l'angle du renforcement de capacité ou empowerment et de renforcement de la citoyenneté. Donc on est là dans une perspective, dans cet argument normatif, de justice sociale et d'équité. L'argument repris aussi par Habermas et Rawls, par exemple. Troisième type d'argument renvoie plutôt à la légitimité des décisions politiques, donc c'est un argument instrumental sur le plan du gouvernement ou de la gouvernance, et qui renvoie donc à la notion d'efficacité des politiques publiques ou d'effectiveness, et qui s'inscrit donc dans le paradigme de la gouvernance qui est mise en place, comme je disais, dans les années 80. On voit que d'emblée que, et c'est une critique qui est faite largement par les sciences humaines et sociales depuis maintenant une dizaine d'années, qu'il y a une sorte d'irénisme dans la conception de la participation qui s'inscrit largement dans un processus pacificateur, donc de règlement des conflits, ex ante ou ex post, qui a tendance à nier la dimension intrinsèquement antagonique du politique, hein, dimension telle qu'elle est très bien définie notamment par une politiste comme Chantal Mouffe. Alors si on essaye de faire l'inventaire, j'essaye maintenant de synthétiser un peu quelles seraient les propriétés du citoyen ordinaire engagé dans les processus de participation et de concertation, on peut dire que c'est un citoyen ouvert d'esprit ou innocent, avec des guillemets, qui s'opposerait à un citoyen engagé, engagé dans un syndicat, engagé dans une ONG, citoyen à qui on doit donc donner à la base une formation qui est censée donner dans le cadre du panel participatif un principe d'équivalence cognitif à l'ensemble des partenaires de la discussion. Deuxièmement, on peut dire que c'est un citoyen capable de participer à la formulation du bien commun, de l'intérêt général versus la formulation d'intérêts particuliers. Ces propriétés, bien sûr, de ces panels délibératifs, c'est de faire émerger une notion de bien commun. Troisièmement, c'est un citoyen qui a lu Habermas, un citoyen habermasien, qui accepte les jeux, les règles du jeu participatif. D'ailleurs, au début d'un processus participatif, on énonce, c'est une très bonne chose, de manière explicite les règles du débat. Elles sont même distribuées et imprimées à chaque participant. Quatrièmement, et c'est une surprise très souvent, y compris pour des chercheurs à sa chaise, c'est un citoyen qui se révèle capable de formuler des opinions et des recommandations sur des sujets extrêmement complexes, empreints d'incertitudes, habituellement considérés comme abordables exclusivement par les experts. Je citerai ici, à titre d'exemple, le World Wide Views on Global Warming, dans le processus. Un des rares processus participatifs à l'échelle globale, donc qui impliquait 38 pays et 4000 citoyens à l'échelle mondiale, où on a fait délibérer les citoyens pendant une journée sur les mêmes questions que celles qui étaient soumises aux négociateurs du climat à Copenhague. Avec une méthodologie assez complexe qui est à cheval entre la délibération et le vote. Et ces groupes de citoyens sont révélés, bien sûr, tout à fait capables, grâce au jeu de l'intelligence collective, d'élaborer des recommandations qui se sont avérées se trouver à l'extrême bord, j'allais dire à l'extrême gauche du spectre de ce qui est sorti de Copenhague, avec des résultats extrêmement intéressants. L'idée étant que les recommandations de ces différents panels étaient transmises aux négociateurs qui devaient, étaient censés aller à Copenhague avec les recommandations de citoyens de chaque pays. Sixièmement, c'est un citoyen, ça c'est très important, c'est un citoyen raisonnable qui ne remet pas fondamentalement en cause les technologies ou la notion de progrès technique, puisqu'on observe pratiquement jamais dans un panel participatif une demande de moratoire. C'est extrêmement rare qu'on observe une demande de moratoire sur une technologie. Très souvent, c'est le cas en Suisse, par exemple, quand on évoque les technologies à risque, comme les nanoparticules, par exemple. Les citoyens vont plutôt dire la chose suivante. Dans notre pays, nous disposons de régulations suffisamment robustes pour éviter d'avoir recours à un moratoire. Nous devons plutôt être les fers de lance du développement de ces technologies dans un cadre moralement acceptable. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails des problèmes que soulèvent ces processus participatifs et de concertation, parce qu'ils ont été beaucoup traités par beaucoup de travaux, la représentativité des panels, l'impact réel, la résonance sur les politiques publiques et la décision, le rôle dévolu par rapport au processus de la représentation démocratique, etc. Il y a un problème, ça nous renvoie à notre question sur la démocratie écologique, bien sûr, c'est la question de la temporalité de ces processus. On est encore une fois dans les questions écologiques sur la nécessité de penser les temps longs, la longue durée, les risques longs, etc. Et les processus en général sont conçus comme one shot, on les fait une fois pour toutes, et puis il n'y a aucune anticipation sur la nécessité d'avoir un suivi sur les différents dossiers. Quand on discute des nanoparticules en 2009, en 2015, la situation internationale n'est plus du tout la même, mais il n'y a aucune démarche de suivi, de mise à jour en fait de ces différentes procédures, ce qui est tout à fait problématique. Alors, est-ce que j'ai 5 minutes ? 5 minutes ? Bon, alors je crois que je vais devoir faire des choix douloureux.
Toujours.
Je vais juste, avant de terminer sur quelques conclusions générales, je vais juste évoquer la notion de justice cognitive, qui est une notion plus rarement développée, puisque la critique la plus dure des limites de la participation et de la concertation pourrait bien nous venir en fait des pays du Sud. Je reprendrai ici les travaux de l'anthropologue indien spécialiste des droits humains Shiv Viswanathan, qui convoque la notion de controverse et évoque aussi la fameuse affaire de la guerre des sciences, la critique du relativisme dans la science study, je n'entrerai pas dans le détail, pour trouver un caractère un peu futile et réducteur qui, dans les pays du Nord, limite la question des sciences et des technologies en société à des affrontements épistémologiques ou à l'opposition classique entre profanes et experts. Lorsqu'il évoque l'impact des grands barrages en Inde, la catastrophe de Bhopal ou les dégâts de la révolution verte en agriculture, il insiste sur le fait que la démocratisation des sciences relève dans les pays du Sud, soumis à l'hégémonie d'un discours développementiste, d'une nécessité vitale. Il évoque notamment l'importance de maintenir en Inde la coexistence de deux systèmes de soins, là je renvoie ici à la question de la diversité, la médecine occidentale qui est basée sur l'evidence-based medicine et les médecines traditionnelles. Il souligne cette nécessité, je cite, « va au-delà de la participation et des ethnosciences vers un empowerment cognitif. L'économie et l'écologie politique des situations tribales demandent un accès à une variété de systèmes médicaux. La pluralité est nécessaire pour un véritable accès à un système car il ne peut pas exister de véritable choix sans alternative. Ce dont nous avons besoin, c'est de l'idée de justice cognitive, c'est-à-dire le droit constitutionnel conféré à différents systèmes de connaissances à exister comme composante du dialogue et du débat. L'idée de participation, fondamentalement, accepte la définition experte de la connaissance. Elle ne vise qu'à la modifier ou à l'édulcorer. La justice cognitive, quant à elle, reconnaît la pluralité des systèmes de connaissances, des moyens d'existence et des styles de vie. Donc, je trouve qu'il y a une sorte d'extrême acuité par rapport à nos interrogations sur les transitions écologiques ou la démocratie écologique qui nous vient des pays du Sud, où le discours développementiste a des effets encore plus délétères, je dirais, qu'il faut l'avoir dans nos propres pays. Alors, je ne vais pas traiter de la question des sites de problématisation de Calon que j'avais mis dans mon titre, mais ce n'est pas grave. Je vais terminer par quelques remarques conclusives. La mise en place d'une démocratie écologique demande, à mon avis, une articulation entre les outils et les modalités de la participation et de la concertation avec les structures de la démocratie représentative, qui, elle, est incapable de prendre en compte les enjeux de la longue durée et les intérêts des non-humains. J'en vois ici aux travaux de Bourg et Whiteside, notamment sur leur réflexion autour de la démocratie écologique avec la création d'un Sénat refondé, regroupant des organisations non gouvernementales et des citoyens tirés au sort, aussi la proposition d'une chambre du futur. Il y aurait beaucoup à dire sur la configuration de ces institutions, mais disons, c'est un plaidoyer pour la créativité démocratique et pour l'expérimentation. La participation est en effet encore enclavée dans un espace qui est beaucoup trop peu articulé aujourd'hui à la décision. Deuxièmement, la démocratie technique doit être articulée à une véritable problématisation du fonctionnement des marchés et des modèles économiques. On peut saluer ici l'initiative de la nouvelle chaire Bernard Maris, qui a mis à son agenda la première conférence de citoyens sur les modèles économiques. Et je trouve que c'est vraiment remarquable parce qu'on a eu des centaines de processus participatifs sur toutes les questions possibles et imaginables, mais pratiquement jamais sur peut-être ce qui constitue le nerf de la guerre, c'est-à-dire la pensée économique mainstream. On peut dire aussi que globalement, pour défendre la participation, parce que je vais aussi pas mal critiquer, elle a un effet bénéfique sur, premièrement, l'attitude des autorités face à la critique, globalement, même si elle est extrêmement radicale, comme elle peut l'être avec pièces et main d'œuvre en France, grâce à qui il y a eu un débat sur les nanos, enfin qui n'a pas eu lieu vraiment, mais sans pièces et main d'œuvre, pas de discussion sur les nanos en France. Le rapport entre identité et diversité des acteurs susceptibles de participer au choix collectif, donc il y a un effet positif sur la diversité des acteurs susceptibles de participer au choix collectif. Il y a un effet positif sur la nature et la qualité du débat. On peut penser au cahier d'acteurs de la CNDP, par exemple, la nécessité dans laquelle se trouvent maintenant les porteurs de projets de qualifier leurs choix de manière extrêmement documentée. Donc on a des bases de discussion beaucoup plus solides. Et finalement aussi, ça permet de promouvoir une nouvelle approche de la décision publique et de l'exercice du pouvoir. Par contre, comme le montre bien le bilan du programme concertation décision environnement qui a été récemment publié sous la direction de Laurent Mermet et Denis Salle, sous le titre environnement, la concertation apprivoisée, contestée ou dépassée, il faut renoncer bien sûr à considérer que la concertation représenterait en soi une formule magique qui permettrait de résoudre tous les problèmes d'environnement. Je terminerai avec quatre remarques qui sont faites aussi par ces deux auteurs dans leur synthèse. Premièrement, la concertation, la participation ne garantit pas l'évitement des conflits. Ça a été montré dans de nombreux dossiers. Les affrontements de Notre-Dame-des-Landes ont été là un facteur de dégrisement partagé par l'ensemble des acteurs. Deuxièmement, la concertation et la participation ne permet pas toujours d'éviter les processus d'exclusion. Donc on a toujours des choix de trajectoire qui sont effectués, on a des usages et des usagers qui sont exclus, même si on a affaire à des processus de concertation. Troisièmement, la concertation ne permet pas toujours de convaincre les usagers d'adopter des comportements vertueux. Et là, je renvoie aux travaux qui ont été faits sur les écoquartiers, l'idée notamment de supprimer les parkings, de développer de nouvelles installations électriques ou de nouveaux revêtements de sol qui ne supportent pas les produits de nettoyage usuel, etc. etc. Voilà, donc je crois que je vais encore mentionner par rapport à la question, je trouve très intéressante sur cette idée de transition vers une démocratie écologique dont la participation, la concertation assortie à un renouvellement de la représentation est une solution. De proposer des modèles qui ne relèvent pas d'une normativité unique, c'est-à-dire une transition écologique radicale qui serait censée être mise en œuvre immédiatement, même si on peut être nombreux à le souhaiter, mais d'un aménagement par l'État, d'un espace pluriel de transition et d'expérimentation, tel qu'il a été proposé notamment par Dominique Bourg et Christian Asperger, avec leur modèle à trois trajectoires, donc standard sécurisé, trajectoire hyper compétitive et trajectoire expérimentale. Donc je trouve ce genre de proposition de créer un écosystème orienté vers les transitions, mais permettant aux acteurs de se réorienter progressivement dans une temporalité, disons, moyenne, extrêmement intéressante pour sortir d'une forme d'idéalisme ou au contraire de pessimisme radical et de démotivation.